Vous écoutez Voix de la Pays canadienne, un balado où nous discutons de propriété intellectuelle avec des professionnels et des intervenants du Canada et d'ailleurs. Vous êtes entrepreneur, artiste, inventeur ou simplement curieux? Vous allez découvrir des problèmes concrets et des solutions concrètes ayant trait au fonctionnement des marques de commerce, des brevets, du droit d'auteur, des dessins industriels et des secrets commerciaux dans la vie de tous les jours. Je m'appelle Maya Urbanovitch et je suis votre animatrice d'aujourd'hui. Les points de vue et les opinions exprimées dans les balados sur ce site web sont ceux des balados diffuseurs et ne reflètent pas nécessairement la politique ou la position officielle de l'OPIC. Les parties les plus traditionnelles de la connaissance sont étudier l'information existante, tirer des conclusions, peut-être effectuer des essais et ensuite mettre en pratique les connaissances dans des nouvelles situations. Il y a peu de questions qui sont posées au sujet de qui détient, par exemple, les aptitudes ou la musique d'un guitariste ou de l'argent qu'un investisseur a fait en mettant en pratique ses nouvelles connaissances apprises en lisant un livre ou en prenant un cours. Quand on utilise l'information existante pour apprendre à des ordinateurs ou des systèmes d'intelligence artificielle à, par exemple, créer de la musique ou investir, il y a en fait des questions sans réponse en ce qui a trait à qui appartient quoi. Ici, nous devons comprendre comment les systèmes d'intelligence artificielle sont conçus et dans quelle mesure les droits de pays peuvent protéger ces différents éléments. Pour nous aider à comprendre des enjeux d'actualité dans ce domaine, je suis heureuse d'accueillir Paul Gagnon et Micha Benjamin à notre balado. Paul et Micha ont fait leurs études en droit, travaillé dans des cabinets juridiques et occupent maintenant des postes de conseillers juridiques internes et aident les compagnies à prendre des décisions sur comment protéger les données et l'intelligence artificielle. Ils ont fait des présentations sur l'intelligence artificielle et les marchés de données, parlé devant le Parlement pour exiger plus de clarté sur la protection du droit d'auteur et comment les données sont utilisées par les intermédiaires en ligne. Paul et Micha, bienvenue à notre balado.
Merci, Maya.
Merci, plaisir d'être ici.
Micha, je vais commencer avec vous. Pouvez-vous nous parler un peu de vous et du travail que vous faites?
Oui, absolument. Donc, en ce moment, je suis chef des affaires juridiques chez SAMA. Donc, SAMA, c'est une entreprise qui fait de l'annotation de données pour des entreprises qui développent et déploient des technologies d'intelligence artificielle. On fait aussi ce qu'on appelle du data curation et la préparation de données pour ces entreprises-là. Donc, je supporte tous les aspects juridiques de cette phase-là du chaîne de développement d'intelligence artificielle, dans le fond. Avant ça, j'ai été chez McKinsey et NTI. Dans les deux endroits, dans le fond, j'étais profondément impliqué dans tout le processus de vente des solutions d'intelligence artificielle et surtout dans les contrats clients et le répartiment des risques et surtout dans le développement des contrats pour la vente des systèmes d'intelligence artificielle et le répartiment des risques entre le monde qui développait les systèmes d'intelligence artificielle et ceux qui les déployaient dans leurs entreprises. Avant ça, j'ai été dans d'autres entreprises telles que Ubisoft et dans des cabinets d'avocats comme Borderlander, j'ai fait.
Intéressant. Paul, je voudrais maintenant vous céder la parole. Vous avez été nommé comme un des 300 meilleurs stratèges de la PI au monde. Pouvez-vous nous parler de votre travail?
Oui, merci. Ces jours-ci, je suis chef adjoint des affaires juridiques chez Moteur Taiga, qui est un fabricant de motoneige et motomarines électriques à Montréal. Avant ce rôle-là, j'étais dans une autre entreprise technologique, mais auparavant, j'étais chez Element AI avec Micha. Finalement, j'ai d'autres expériences. J'ai été comme conseiller juridique au Cirque du Soleil, comme un avocat en technologie, puis en numérique, ainsi que chez Intel, le fabricant de semi-conducteurs, et puis aussi également là, en cabinet d'avocat. Mon parcours était d'abord surtout en propriété intellectuelle, mais aussi beaucoup en droit commercial, puis en autres affaires un peu plus générales aussi.
Aujourd'hui, nous allons parler des difficultés dans les systèmes d'intelligence artificielle et des différentes composantes dans les systèmes. Je me demandais, Micha, pouvez-vous nous expliquer le processus de création d'un système d'intelligence artificielle? Comment ceux-ci sont déployés dans les entreprises d'aujourd'hui? Quelles sont les étapes pour les créer?
Oui, absolument. Le développement et le déploiement d'un système d'intelligence artificielle, il y a deux éléments clés qui vont là-dedans et qui sont fusionnés ensemble pour arriver au système fonctionnant. Donc, le premier élément, c'est vraiment les données comme telles. Donc, si on prend un exemple un peu typique, mettons qu'on avait une compagnie d'assurance automobile qui voulait faire en sorte que tu pouvais faire une demande de remboursement pour un accident sur ton véhicule en utilisant l'intelligence artificielle. Donc, en principe, si tu étais dans un accident, tu pouvais prendre ton téléphone, prendre quelques photos de ton auto, le soumettre à ta compagnie d'assurance et tu aurais un système d'intelligence artificielle qui ferait en sorte que soit il donnerait la demande à un humain qui ferait une évaluation, soit ça compléterait ton évaluation automatiquement, ou peut-être tu aurais un mix des deux où tu aurais une suggestion venant de la machine qui serait approuvée ou non par un agent humain. Donc, la première étape de ça, c'est d'aller recueillir plein d'exemples de photos de véhicules accidentés et non accidentés. Et ça pourrait venir de tes données comme compagnie d'assurance. Ça pourrait être des données qui viennent des manufacturiers d'auto. Ça pourrait être des données qui viennent de ce qu'on appelle les recall databases, des données publiques ou gouvernementales. Et il y a un travail de sélection et d'assemblage de ces données-là pour faire une base de données, ce qu'on appelle en anglais le training data dans le fond. Donc déjà, on peut voir que là-dedans, il y a une sélection des données qui pourrait bénéficier des droits d'auteur dans certains cas. On peut aussi avoir la création de données synthétiques pour venir pallier à des manquements à ces données-là. Dans cet exemple-ci, on crée des images, il pourrait avoir des droits d'auteur là-dedans aussi. La prochaine étape, c'est de venir, d'une certaine manière, attirer l'attention de ta machine sur les éléments qui sont importants pour l'évaluation d'une demande de remboursement. Donc, par exemple, dans cet exemple-ci, on va pointer un trou dans l'auto, mettons, ou une vitre cassée pour démontrer qu'il y a vraiment un dommage et le différencier de l'auto en état normal, dans le fond. Donc, c'est cette étape-là qu'on appelle l'annotation, en anglais le data labeling. Et c'est fait à utiliser un mix de procédés automatiques et d'interventions humaines la plupart du temps. Donc, encore une fois, il y a une certaine sélection puis un skill set qui va là-dedans et on peut avoir une protection sur ces annotations aussi. Donc, une fois qu'on a cette base de données et surtout cette base de données annotée, on va venir utiliser un modèle d'intelligence artificielle. Souvent, ces modèles-là sont sont au moins inspirés ou tirés d'un modèle open source. T'sais, on parle de logiciel ici, on peut avoir une protection dans le logiciel, ce qu'on appelle en anglais pre-train, donc le modèle avant qu'il ait été exposé à la data du client. Et on va entraîner ce logiciel sur la donnée qu'on a sélectionnée. Ça va résulter sur une autre version de ce modèle qui peut avoir un droit d'auteur distinct du modèle préexistant. Donc, on a vraiment deux versions différentes. Et la version qui résulte de cette étape d'entraînement du système a beaucoup de valeur et pourrait refléter en certaine manière la valeur de la data préexistante. Et souvent, les personnes qui sont auteurs ou propriétaires du logiciel initial ne sont pas les mêmes qui sont propriétaires de la data. Et il y a beaucoup de conversations. Et en ce moment, c'est vraiment au niveau contractuel qu'on va traiter de ça. Mais de savoir qui est propriétaire de la version modifiée par la data, c'est un gros enjeu. Il y a beaucoup de valeurs là, mais aussi c'est une grosse zone grise dans la loi pour savoir qui serait propriétaire de cette version-là si on se remettait à la loi et non au contrat. Donc après ça, une fois qu'on a cette version entraînée, dans le fond, on va le mettre en production, on va le tester. Et au fur et à mesure qu'on teste ou on le met en production, normalement, il y a un oversight humain pour s'assurer que ça fonctionne comme ça devrait, que ça ne fait pas d'erreur. Et si c'est bien fait, les corrections qui vont avoir lieu vont se retrouver dans la base de données d'entraînement et on va réentraîner le modèle sur ces nouvelles données pour s'assurer que le modèle va, un, être meilleur et va avoir un taux d'accuracy plus haut, mais aussi qui va prendre en compte des nouveaux types de données qui pourraient rentrer dans le système qu'on n'avait pas au début. Donc, par exemple, si on a des nouveaux modèles d'auto, on va s'assurer que ces nouveaux modèles d'auto sont dans la base de données pour les entraînements en production pour s'assurer que notre modèle est robuste puis à jour. Donc, en gros, ça, c'est les différentes étapes. On voit qu'il y a beaucoup d'intervenants différents et il y a beaucoup de droits différents qui peuvent survenir, soit qui sont un input dans le système ou qui peuvent être créés par ce processus.
Mm-hmm. Donc, il y a beaucoup d'utilisation de données et il faut les annoter. Il y a aussi beaucoup de données qui sont utilisées dans les modèles d'entraînement ou de formation. On entend beaucoup parler de copiage de données et une partie de ça arrive de façon involontaire. J'allais vous demander, Paul, vous semblez promouvoir la clarté sur comment les données peuvent être utilisées. En 2019, vous avez parlé devant le Parlement canadien lorsque la discussion sur l'utilisation des données a commencé au Canada. Quels sont les enjeux ici?
Oui, en fait, pour reprendre la séquence que Michel a expliquée, beaucoup des enjeux liés aux droits d'auteur se trouvent au début de la chaîne de production. C'est certain qu'il y a d'autres enjeux en matière de droits d'auteur et de pays dans d'autres aspects, mais au début de la chaîne de production, il y a beaucoup de manipulation de données, puis il y a beaucoup de copies qui pourraient être faites parce que finalement, on se rend compte que c'est des opérations là, qui sont faites avec des ordinateurs, avec différents serveurs, puis avec finalement ces processus d'entraînement-là de modèles que Micha a décrit. C'est certain qu'on pourrait sauter aux conclusions puis dire « Ah, ben voici, pour toutes ces données-là, il y a des enjeux de droit d'auteur », mais d'abord et avant tout, il faut qualifier la nature des données qui sont en cause. Ils ne sont pas toutes traitées de la même manière, puis encore plus, ils ne sont pas tout à fait toutes sujettes aux droits d'auteur de la même manière non plus. Donc, dans l'exemple de Micha qui parle de ce logiciel de traitement pour des accidents de voiture, ben, les données qui pourraient, en guillemets, nourrir ou entraîner ces systèmes d'intelligence artificielle-là, ben, ça pourrait être tout type de données. Il pourrait avoir des données météorologiques, il pourrait avoir des cartes, il pourrait avoir des photos. Toutes ces informations-là, ces données-là, sont traitées différemment d'un point de vue de droit d'auteur. Donc, finalement, il faut se poser la question d'abord, est-ce qu'il y a un droit de propriété intellectuelle en cause? Est-ce qu'on a du droit d'auteur qui est présent? Et puis, ben, une autre nuance qui est importante en considérant toute l'analyse de droit d'auteur, c'est de réaliser que la loi sur le droit d'auteur, elle se concentre sur l'utilisation des œuvres comme œuvres, pas forcément comme données. Puis la nuance là, c'est que au final, il y a vraiment des nuances à aller apporter à l'utilisation qui est faite, puis aussi la nature même des données. Mais je sais que Michel, il voudrait peut-être en parler, là, mais pas juste les données elles-mêmes, mais aussi toute la nomenclature puis l'étiquetage, entre guillemets, de ces données-là, ce qu'on appelle en anglais le data labeling, parce qu'il y a des enjeux de droit d'auteur là aussi.
Oui, absolument. Donc, c'est effectivement la difficulté, c'est de savoir des fois si... Si on crée de la donnée, si elle est sujet au droit d'auteur ou non, c'est sûr qu'il y a des critères qui sont développés par la jurisprudence là-dessus, mais ça peut être des zones un peu grises dans les cas de développement d'AI. On va prendre un exemple. Si on voulait créer un système qui créait des œuvres d'art basées sur quelques critères de l'utilisateur, donc, je pouvais dire, ah, ben, je veux une œuvre baroque dans les couleurs vertes et bleues, mettons. Pour entraîner un modèle qui serait capable de faire ça, il faudrait que quelqu'un annote des œuvres d'art préexistantes pour entraîner cette machine-là. Donc, il faudrait passer dans la data et dire, OK, ça, c'est une œuvre baroque, contemporaine, peu importe. Ça, c'est un style XYZ. Vous voyez que je fais un art historien du tout. Mais il y a l'exercice d'un talent puis un jugement qui serait apporté pour venir faire ces annotations-là. Même chose, mettons, si on voulait faire une machine qui pouvait faire des diagnostics radiologiques sur des tests. Il y a vraiment un skill, le critère en anglais, c'est skill and judgment, nécessaire pour la création de ces données-là. Et des fois, c'est complètement automatisé et vraiment bête. Comme Paul a mentionné, la data météorologique, il n'y a pas nécessairement un droit d'auteur sur l'information contenue dedans. Donc, ça, c'est une protection qui peut exister ou pas, mais qui est beaucoup mieux traitée d'une manière contractuelle qu'avec le droit d'auteur sui generis, dans le fond, parce que dans un dataset, tu auras probablement les deux à chaque fois.
sur la protection sera un élément clé ici, parce que celles-ci sont dans une zone grise qu'un système d'intelligence artificielle vaut quelque chose. Celui-ci doit apprendre. Sans données deviendrait inutile. Mais vous avez travaillé avec des solutions ensemble avec certains chefs de file dans le domaine de l'intelligence artificielle au Canada. Vous avez co-rédigé des directives pour aider les gens qui sont en train de rendre les données disponibles, de leur permettre de décider ce qui peut et ne peut pas être fait avec les données. Pouvez-vous me parler des directives que vous avez rédigées et ce que vous vouliez faire avec celles-ci?
Oui, absolument. Donc, ce qu'on a réalisé en regardant les bases de données qui existaient, c'est que il y a beaucoup de data qui a été mise à disposition du public, soit par des universités, soit par des amateurs de AI qui ont fait vraiment des bases de données incroyables qui sont utilisées par beaucoup d'intervenants dans l'écosystème. Mais ce qu'on a réalisé, c'est que les termes rattachés à ces bases de données-là n'accomplissaient pas le but qu'ils essayaient d'accomplir. Donc, souvent, on utilisait des termes de open source, donc des termes qui ont été développés pour du software mis à disposition du public. Mais quand on utilise des données pour l'entraînement de AI, on n'a pas besoin de les inclure dans le système de la même manière qu'on le ferait pour du code mis à disposition du public. Donc, ça faisait en sorte que, par exemple, si on mettait de la data à disposition du public et on voulait que tout le monde qui fait des modifications utilise ces données-là, repartage les modifications qu'ils ont faites. Si on faisait ça avec du software, avec la licence Share Alike, ça marche très bien. Mais quand on le fait avec la data, tu peux très bien utiliser la data avec un système AI et ne rien repartager parce que ton système entraîné sur cette data-là n'est pas une version modifiée de la data originale. Donc, malgré l'intention que le monde exprimait un peu en utilisant des licences open source, le langage qu'ils utilisaient n'arrivait pas à cette réalité-là. Donc, Paul, peut-être tu vas aller un peu plus loin dans les conséquences d'essayer d'utiliser le framework open source pour les données.
Ouais. Merci, Michel. Ben, en gros, je veux dire, quand on parle de open source, c'est de logiciels libres. Je pense que ça va être le sujet d'un autre podcast dans cette même série-ci. Mais en gros, on parle de logiciels qui sont rendus disponibles avec une certaine liberté dans comment et quand ils peuvent être utilisés. L'enjeu avec ces licences-là, c'est qu'ils s'appliquent vraiment à des logiciels informatiques, puis pas forcément avec des données. Donc, même si par ailleurs un logiciel informatique est protégé par droit d'auteur, ben utiliser une licence qui reflète les logiciels informatiques et leurs caractéristiques plutôt que les données, ben ça crée certains enjeux puis certains écarts là, finalement entre ce que les auteurs ils pourraient vouloir et puis ben ce que les utilisateurs s'attendent. Et en gros, c'est vraiment une question d'utiliser le bon type de contrat pour le bon type de sujet. Donc ce qu'on réalise, c'est que en regardant beaucoup de comment les données sont rendues disponibles, ben les licences qui sont utilisées ne suivent pas ou du moins ne reflètent pas la nature des données, mais aussi comment elles peuvent être utilisées par des systèmes d'intelligence artificielle, surtout dans toute la chaîne de production là, que Michel a décrit un peu plus tôt. Ben finalement, ce qu'on s'est aussi rendu compte, c'est que en utilisant des licences qui n'étaient pas adaptées, mais finalement, les gens n'ont pas vraiment le degré de granularité, le degré de contrôle qui pourrait exister pour décider comment les données peuvent être utilisées. Donc, en gros, beaucoup de ces licences-là, ils se basent sur la notion d'utilisation, en anglais « use ». Comme on l'a vu, « use », utiliser des données pour bâtir des systèmes d'intelligence artificielle, c'est très complexe. Il y a plusieurs différentes étapes où les données peuvent être, en guillemets, utilisées. Pour un logiciel informatique simple, la notion d'utiliser, c'est assez évident. Est-ce que l'ordinateur roule, entre guillemets, le logiciel ou pas? Cette utilisation-là n'est pas ambiguë. Tandis que pour les données, ben, il y a beaucoup de types d'utilisation possibles, beaucoup de contextes dans lesquels ça peut se faire. Puis finalement, nos conclusions, c'était qu'essentiellement, il n'y avait pas de cadre contractuel, de cadre de licence qui permettait de bien refléter ces réalités-là. Puis qui, dans le fond, en donnant plus de clarté sur les différents droits qui peuvent être en cause, mais qui donne de ce fait plus de contrôle aux gens dans les permissions qu'ils donnent quand ils rendent des données disponibles.
Pour prendre un exemple qu'on avait en tête un peu, qu'on a bâti ce framework-là, c'est si je créais une base de données de visage synthétique et j'étais à l'aise qu'il soit utilisé par des, mettons, par une entreprise qui ferait du frictionless checkout. Donc, on a tous vu les magasins où tu peux rentrer, prendre quelque chose et sortir sans jamais payer ou rien. Et c'est un système de AI qui te suivrait et te chargerait par après. Si je dis, ça peut seulement être utilisé pour ces fins-là. Si je ne restreins pas l'utilisation de tout système de AI entraîné en utilisant cette base de données-là, je n'arrive pas à mon but ultime. Donc, je peux très bien dire, tu peux seulement l'utiliser pour la création de système de frictionless checkout, mais ça veut dire que n'importe qui a entraîné leur modèle pour faire un système de frictionless checkout pourrait par après utiliser ce système-là, entraîné sur cette donnée-là, de la manière qu'ils veulent. Donc, ils pourraient, par exemple, créer un système de facial recognition qui mettrait à disposition d'une agence policière étrangère, par exemple. Donc, c'est une utilisation très différente de ce que j'avais en tête, mais vu que j'avais juste encadré l'utilisation initiale, les effets un peu downstream ne sont pas pris en compte avec le langage de open source.
Je pense qu'un autre bon exemple, parce que là, ce dont on parle, c'est vraiment de dire, OK, ben quand je rends des données disponibles, je viens limiter ou je viens décrire plutôt dans quel contexte ces données-là peuvent être utilisées dans un contexte d'intelligence artificielle. Donc, un autre bon exemple, c'est par exemple des données de santé. Si jamais bon, je peux être un hôpital ou une institution de recherche d'une université qui a accès à des données de santé qui pourraient être d'intérêt pour l'intelligence artificielle, bien, vu le fait que ces données-là sont sensibles, sont privées, c'est des données personnelles, puis ça a une très grande valeur, pas juste monétaire, mais en principe, bien, comme organisation, je veux pouvoir contrôler quelle utilisation est faite de ces données-là. Et puis, finalement, je veux peut-être pouvoir restreindre quel type d'utilisation sont faites par des systèmes d'intelligence artificielle. Donc là, c'est là qu'on voit qu'il y a une licence qui dit tu peux utiliser ou pas utiliser. C'est pas assez pour donner ce degré de contrôle-là. Donc, finalement, nous, ce qu'on a fait avec la licence de données de Montréal, puis l'article académique qui en est ressorti, qui décrit justement ce cadre-là, ben, c'est de suivre la chaîne de valeur d'intelligence artificielle, de donner une taxonomie, de donner des différentes définitions d'utilisation qui sont possibles, puis finalement, de cette analyse-là, de ce cadre-là, ben, mettre dans les mains des gens ce contrôle-là. Donc, qui vient finalement être plus granulaire puis plus probable de leur donner le contrôle qu'ils pourraient vouloir sur ces données-là puis l'utilisation qui en est faite.
Mm-hmm. Nous parlons beaucoup de l'utilisation de données, des personnes qui fournissent des données à utiliser et de la licence de données de Montréal que vous avez rédigée. Et maintenant, si on se tourne vers les entrepreneurs qui savent ou ne savent pas ces limitations, j'imagine que vous avez rencontré certains de ces entrepreneurs et inventeurs qui cherchent à comprendre comment ils peuvent utiliser les données. Selon vous, quelles sont les erreurs courantes commises par les entrepreneurs qui s'appuient sur les données et comment peuvent-ils éviter ces erreurs?
Je pense que le premier point qu'on voit, c'est juste une question de connaissance. C'est-à-dire que les gens ne savent pas ce qu'ils ne savent pas. Et puis au final, quand on a déjà une familiarité avec ces enjeux-là, on est capable de mieux diriger nos efforts et de mieux comprendre ce qui en ressort. Je pense qu'un exemple typique qu'on pourrait comprendre plus intuitivement, c'est de dire, ben, si je veux vendre un recueil de poésie avec 20 poèmes préférés d'auteurs que j'adore, ben, je pense que la plupart des gens comprendraient qu'ils ne peuvent pas nécessairement publier un recueil de poésie des poèmes qu'ils n'ont pas écrits. Ils sauraient d'aller chercher la permission des différents auteurs pour aller finalement publier ce recueil-là. Cette même connaissance-là, cette même culture-là autour des données n'existe pas vraiment encore. Il faut augmenter finalement ce niveau-là de connaissance de base pour comprendre que À la place d'un recueil de poésie, les gens bâtissent des systèmes d'intelligence artificielle qui se fient sur des données. C'est leur intrant le plus important. Mais en entraînant ces modèles-là d'intelligence artificielle sans avoir les droits sur les données ou sans nécessairement avoir une certitude juridique sur si c'est utilisable ou pas, ben, il faut augmenter cette connaissance-là parce que ces décisions-là, ça peut avoir un assez grand impact sur des entreprises technologiques.
Oui, absolument. Je pense que c'est la première chose, c'est avant de pouvoir vérifier si les termes rattachés à une base de données ou non fonctionnent, il faut savoir aller les chercher. Je pense que souvent, le monde prenne le langage qui est mal utilisé de open source, rattaché à des données, ils le prennent pour l'intention originelle rattachée au logiciel et non nécessairement à la data. Et c'est pas nécessairement applicable de la même manière. Donc, ils pensaient un peu plus pour s'assurer que tu es en conformité avec ces licences-là, c'est très important. Par exemple, beaucoup de la data de compétition, on parle ici de compétition AI, Kaggle, c'est souvent mal utilisé et souvent on les utilise pour des fins qui ne sont pas permises par le monde qui ont mis à disposition cette data-là et souvent ne sont même pas vraiment éthiques, surtout quand on prend en compte l'intention initiale de la personne qui a mis à disposition cette data-là.
Je pense qu'au-delà de ces enjeux-là, il y a d'autres aspects à l'intelligence artificielle au-delà de juste la propriété intellectuelle. Je sais que c'est le thème du podcast, puis on ne va pas trop en parler, mais ça reste que des entreprises qui gèrent ou qui commencent à utiliser de plus en plus des systèmes d'intelligence artificielle, bien, il y a une certaine responsabilité qui vient avec. De comprendre que les données qui sont nourries puis qui entraînent et informent ces modèles-là sont importantes puis doivent finalement s'assurer qu'elles sont fiables, c'est-à-dire qu'ils reflètent bien les problèmes qui doivent être réglés par les systèmes d'intelligence artificielle qui sont utilisés. Finalement, c'est pour beaucoup d'entrepreneurs puis aussi finalement tout le monde qui utilise des systèmes d'intelligence artificielle en entreprise, c'est de comprendre que finalement il y a une responsabilité quant à comprendre comment ces systèmes-là fonctionnent, comprendre leurs limites, comprendre l'importance des données qui sont nourries. Mais finalement, cette compréhension-là, c'est aussi un énorme avantage parce qu'après ça, les entreprises peuvent voir qu'il y a une énorme valeur ajoutée dans leurs propres données qui génèrent puis qui créent. Puis avec ça en tête, il y a plusieurs opportunités, plusieurs portes qui peuvent s'ouvrir pour développer des partenariats intéressants puis finalement vraiment maximiser toutes les contributions que l'intelligence artificielle peut amener à leur entreprise. Puis ça, finalement, c'est plus une question de mentalité que juste strictement une question de connaissance. C'est de voir qu'il y a vraiment une opportunité là.
Oui, absolument. Et je pense aussi qu'il y a beaucoup de monde qui ne réexamine pas les origines de leur data une fois que c'est mis en production. Mais je sais qu'il y a beaucoup d'entreprises qui utilisent des datasets qui ne sont plus vraiment relevant ou complètes. Il y a beaucoup de data où le monde a beaucoup changé dans les derniers 2 ans. Il y a beaucoup de data qui a été créée ou qui a changé. Et c'est pas toutes les entreprises qui ont pensé à réentraîner leur modèle sur cette nouvelle data ou faire en sorte qu'ils ont assez d'input qui reflète notre nouvelle réalité, dans le fond. Une autre affaire qu'on voit beaucoup, c'est qu'il y a beaucoup de monde qui vend de la data. Il y a beaucoup de monde qui sont très au courant des termes ou de la mentalité qu'il faut avoir autour de la vente de data. Et ça, c'est du monde plus sophistiqué. Les data brokers, ils ont compris comment entourer l'utilisation de data dans un contexte de AI. Mais des plus petites entreprises ou des entrepreneurs, même des universités, des fois, il y a des aspects qu'ils ne comprennent pas ou ne discutent pas quand ils mettent à disposition leur data. Puis une chose importante, c'est que une fois qu'une solution de AI a eu accès à de la data, il y a de la valeur là, même si ce système n'a plus accès à cette data. Donc, un exemple vraiment facile, c'est un système de facial recognition, donc qui peut reconnaître des visages, qui a été entraîné sur les faces de certaines personnes. Si tu effaces la data sur laquelle le modèle a été entraîné ou tu ne mets plus à disposition cette data-là, si tu ne supprimes pas ce qu'on appelle les weights or hyperparameters, ou si tu ne fais pas un retraining de ce modèle-là, donc si tu utilises le modèle encore sans modification, le dommage a déjà été créé. Donc, on peut dire qu'on va supprimer les banques de données des faces des personnes, mais ce système-là peut encore reconnaître le monde le monde très facilement et suivre les faces et savoir c'est qui. Donc, vraiment de penser aux effets, à la valeur qui a été créée par un training one time, qu'on appelle en anglais, et penser à, si tu supprimes la data, quels sont les effets sur le modèle de AI et qu'est-ce qui a besoin d'être fait au modèle de AI une fois que ta data est supprimée pour garder l'intention que tu avais en supprimant la data originalement. C'est une chose auquel on ne pense pas normalement.
Ouais, puis finalement, il y a d'autres considérations. On a parlé de propriété intellectuelle, mais il y a aussi des enjeux de vie privée, des enjeux de droit de la concurrence aussi. Là. Donc, il y a vraiment plusieurs aspects à ces facettes, à aux données, puis comment ils sont utilisés par les systèmes d'intelligence artificielle.
Mm-hmm. Si quelqu'un travaille sur les systèmes d'intelligence artificielle et utilise beaucoup les données, est-ce qu'il y a un endroit où il ou elle peut aller pour en apprendre plus sur l'intelligence artificielle et les données?
Oui, il y a l'article auquel on a référé un peu plus tôt dans le podcast, c'est un article qui s'appelle Towards Standardization of Data Licenses. Et puis sinon, si vous cherchez sur Internet seulement avec Montreal Data License, vous allez être en mesure de trouver l'article qui, je pense, brosse un bon portrait de justement non seulement la chaîne de valeur d'intelligence artificielle, les différentes étapes que Michel a expliquées, mais aussi finalement l'importance d'avoir de la clarté dans les licences d'utilisation de données dans le contexte de l'IA. Donc, je pense qu'on va prêcher pour notre paroisse, comme on est les auteurs, les co-auteurs de l'article, mais ouais, je pense que c'est un bon point de départ.
Paul, Micha, ce fut très technique, mais très, très intéressant. Merci énormément d'avoir expliqué quels sont certains de ces enjeux et aussi d'avoir partagé certaines des solutions pour les gens qui cherchent peut-être à utiliser des données dans leur système d'intelligence artificielle. Merci beaucoup.
Merci, c'était vraiment un plaisir.
Avec grand plaisir, merci.
Vous venez d'écouter Voix de la Pays canadienne, un balado où nous parlons de propriété intellectuelle. Dans cet épisode, nous avons discuté des systèmes d'intelligence artificielle afin de comprendre comment les auteurs et usagers des données de formation qui sont utilisées dans les systèmes d'intelligence artificielle peuvent et ne peuvent pas être protégés par le droit d'auteur et les types de licences que les auteurs peuvent utiliser pour mieux contrôler comment leurs données sont utilisées dans les systèmes d'intelligence artificielle et l'apprentissage machine. Si vous êtes intéressé à en apprendre plus, jetez un coup d'œil à la description de cet épisode où nous avons un lien à l'article sur la licence de données de Montréal qui a été publié en 2019 et co-rédigé par Paul Gagnon et Micha Benjamin, ensemble avec leurs collègues experts et chercheurs en intelligence artificielle.